L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bon début de semaine, mesdames, messieurs. On est lundi. Dominique, bonjour.
Salut, Michel.
Ce qui est le fun dans le sport, c'est qu'il n'y a pas de break. Dans le fond, parce que là, la finale de la Coupe Stanley, ça achève. La finale de NBA, ça achève. Mais on est full baseball. Le tennis, hey, Wimbledon, ça en vient.
Oui.
Là, c'est le tournoi de Queen, on va vous en parler tantôt.
T'as l'Euro, ça
calme. L'Euro, c'est ça que j'allais dire. L'Euro, ça a commencé en fin de semaine.
Les Alouettes.
Les Alouettes.
Ils perdent plus. 10 victoires en ligne.
Et regardez ça, samedi soir, les Alouettes. C'est parce que je suis pas un fringant de la Ligue canadienne.
Moi, j'aime ça, moi. Le 3SM me dérange un peu, c'est ça qui me dérange. J'aime ça.
Parce que le football américain, il a de la passe. Mais Fayago, il a un bon bras.
Il est surprenant.
Il est surprenant. Puis les interceptions, puis... Ah oui, les Alouettes, là, d'abord, ils ont gagné la Coupe Grey.
Ils sont les champions en titre. Puis là, ben, c'est 2 victoires, aucune défaite.
Ouais. Les Alouettes ont plus de chances de gagner la Coupe cette année que les Canadiens l'année prochaine.
Puis dans quelques années aussi.
Dans quelques années. Quand, au moins, on a une Coupe à Montréal, la Coupe Grey.
Au moins.
Baseball, on oublie ça, on n'a pas l'équipe. Soccer, on n'est pas parti pour ça. Et on est 12e encore. Quoi qu'on est allé chercher un verdict nul contre le Real de Salt Lake, qui n'est pas une mauvaise équipe, là.
Oui, absolument. C'est un point de plus. Puis quand tu regardes également le classement dans la MLS, c'est encore possible pour le CF Montréal.
Pour les séries? Oui.
C'est extrêmement serré. Écoute, on est à... un point des séries.
C'est comme les Blue Jays.
Ben, effectivement.
Mais c'est parce que le problème des Blue Jays, ils ne seraient pas d'être meilleurs. Ben, ils ne seraient pas d'être meilleurs que ça. Ils ont deux gagnants. Pas bien compliqué, là. Bichette, il n'a pas un bon début de saison. Il ne seraient pas de frapper mieux que ça. Il y a Guerrero. À part ça, les autres, là, ils n'ont pas de frappe. Ils ne claquent pas.
Tu n'as pas une si bonne équipe que ça, Toronto.
Non, Toronto,
ils n'ont pas une si bonne équipe que ça. Puis ceux qui frappent, c'est ceux qu'on ne s'attendait pas. Varsho, il y a 11 circuits.
Ouais.
On ne s'attendait pas de ce joueur-là. 14 doubles, il va bien.
Springer frappe pas,
c'est frappe décevant. Pas. Turner a eu un bon début de saison, mais on savait qu'il allait ralentir.
Non, il a ralenti beaucoup aussi.
C'est difficile de gagner après ça. Ben, tes lanceurs font leur gros possible. Berrios, Bassitt, ça va. Kikuchi, Gossman. Ils jouent pratiquement tous pour 500, là. Berrios est 6-5, Bassitt est 6-6, Kikuchi est 4-5.
Mais entre nous autres, ils n'ont pas un double à l'OBAP.
Pas du tout.
Mais même s'ils font une série, ils ne feront pas une série bien fort. Il n'y a pas de club.
Tu vas arriver contre les Yankees. Là, tu vas te faire manger. Mais, gars...
Dominique, attention, tu te rappelles ce que tu as dit la semaine passée? Tu penses que les Yankees et les Dodgers ne seront pas là?
Mais regarde, 2 défaites contre Boston en fin de semaine.
Oui. Hein?
2 défaites contre Boston.
Mais George Lafrappe encore, il est rendu à 26 circuits.
26 circuits.
Les Dodgers, ils ont perdu Mookie Betts. Sauf qu'ils ont tellement de gros cogneurs.
Ça va faire mal.
Ça va faire mal.
Puis Yamamoto, le lanceur à 325 millions, qui est blessé. Blessé, on dit, à l'épaule. Et que c'est pas bon signe quand t'es blessé à l'épaule et t'es un lanceur au baseball. Ouais. Mais il y avait quand même un bon début de saison. Là. On parlait quand même de 6 victoires, 2 défaites.
C'est le fun d'avoir le baseball. Il ne faut pas regarder jouer les Aces d'Oakland. C'est vrai qu'il n'y a pas de club.
Je me promenais dans les archives. Là.
C'est triste, les Aces d'Oakland.
Je me promenais dans les archives. Tu sais, je fais tout le temps les éphémérides le matin. Ce matin, là, j'étais en 1996. Puis le 17 juin 1996, il faudrait que j'essaie de leur sortir. Là.
Dans le baseball?
Les Expos étaient 2e à 3 games d'Atlanta.
Dis-moi pas, fais-moi pas de peine, Dominique. Là. Parle-moi pas des Expos.
Souvenez-vous...
J'ai de la misère à faire mon deuil des Expos.
Souvenez-vous, après 94, après la grève, oui, il y a eu une vente de feu. Mais les Expos étaient encore bons. 1995, ça a été so-so. Mais 1996, ils avaient une équipe intéressante. Sans avoir de grosses vedettes. Mais la grosse vedette, là... C'était Henry Rodriguez. Henry, vous vous souvenez?
Oui.
Bon, ben, il fonctionnait. Mark Grizzly, je vais aller chercher les statistiques, là. C'est en train de se développer. Mais écoute, dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, mon Dieu! » C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au baseball.
Et Mark Grizzly, que tu viens de parler, tu sais que c'était le chum personnel de Michel Bureau.
C'est le colocataire à Michel.
À Michel Bureau.
Tu sais, donc, de voir ça, je colline le bon temps. Puis je voulais justement t'en parler, j'en profite donc ce soir. Atlanta est à 41-26. Montréal était 38-29, trois matchs derrière. Ils étaient meilleurs deuxièmes, les Expos de Montréal, ouais. Le 17 juin 1996, il y a 28 ans.
Ouais, c'est triste. Ils sont plus là.
Ils sont plus là, malheureusement. Plus là, mais... Et regarde, quand je te dis les frappeurs, là, Henry Rodriguez avait déjà 21 circuits. Mark Grzelanek frappait pour 332.
Tu sais, entre nous autres, Dominique, là, à Québec, on a construit un amphithéâtre pour les Nordiques. Ils sont pas là.
Non.
Puis à Montréal, on n'a jamais construit. Tu sais, parce qu'à Montréal, si on avait construit un stade, il serait là.
Encore là. Ben oui.
Puis à Québec, on a construit un amphithéâtre pour les Nordiques, ils sont plus là.
On attendait ça à Montréal, la construction du stade.
Puis ça passe proche.
Je regarde les statistiques. J'ai les statistiques devant moi, puis oh mon Dieu, les noms, que ça rappelle. Quand on dit que les joueurs ne frappent plus, là, on montrait dans le journal le top 10 des frappeurs dans chaque ligue.
OK.
Roberto Alomar frappait 390.
À quelle année, là?
En 96.
96, OK.
Alomar frappait pour 390. Alex Rodriguez, 360. Edgar Martinez, 358. Hey, Chuck Knobloch, 357.
Au-dessus de 350, là.
Mo Vaughn, 354. Wade Box, 354. Écoute, le dixième est à 336. Maintenant, le dixième est à 2,85. On ne frappe plus.
J'ai regardé les Blue Jays en fin de semaine, Dominique, là. Je serais curieux de savoir combien ils se sont fait strike une fois depuis le début de l'année. Ça, ils visent la clôture. Tu l'as-tu, cette statistique?
Ben oui.
À mon avis, c'est l'une des équipes qui se fait striker le plus souvent. C'est vendredi ou samedi, j'écoutais la game, là. Ils sont fait striker.
497 fois, ils sont deuxièmes dans la Ligue américaine.
Deuxième, c'est ça. Le problème des Blue Jays, là, moi, j'ai joué au baseball, Dominique. Là.
Oui.
Puis un strikeout, ça vaut pas de la marde. Puis tu vas pas, c'est un but sur balle. C'est un cadeau de l'adversaire.
Ils ont pratiquement autant de strikeout que de coups sûrs. Ils ont 497 retours bâtons, 541.
Le coach, il n'est pas capable de lui rentrer dans la tête que juste à côté à la balle, comme Wade Boggs faisait.
Ben oui.
Puis comme Rod Carew faisait. Puis
comme Grudzielanek faisait.
Grudzielanek
avec les Expos.
Pete Rose. Il a plus de coups sûrs dans le baseball.
Pete Rose.
4200 coups sûrs.
Pete Rose.
Ben lui, il n'essayait pas à clôture. Tu sais, tu peux en essayer une. Tu sais, trois balles, une prise. Tu peux en essayer une. Et ils se font striker. Et strikeout, c'est pas payant au baseball. C'est comme quand tu donnes un but sur balle. Il y a rien. Quelle équipe qui a donné 14 buts sur balle? C'est dur, les voyageurs, la semaine passée?
Ouais.
C'est 14 buts sur balle. Beaucoup. Tu peux pas gagner une game de baseball, là, 14 buts sur balle.
Tu sais, je vous donnais l'équivalent des Blue Jays. Là. Pete Rose a frappé 4256 coups sûrs. Ouais. C'est combien de fois il a été retiré au bâton? 1143.
Ouais.
En 14 000 présences au bâton. C'est même pas 10% de ses présences où il s'est fait retirer au bâton. C'est une bonne moyenne, là. C'est une méchante bonne moyenne. Il frappait, puis il essayait de frapper au bon endroit. Tu sais, Rose, c'était pas un frappeur de circuit, là. Il en a 160, c'est 4200 coups sûrs, mais 746 doubles.
T'as plus de chances d'aller au premier but si t'essayes un court tenu.
Oui.
Parce qu'au moins, il y a la défense, tu déplaces la défensive pour avoir un mauvais lancer au premier but. Un strikeout, il y a rien à faire avec un strikeout.
Sachant que t'as la puissance... Si tu as 100 belles, vas-y. Mais si tu sens, là, regarde, je suis capable de la pousser, mais genre, entre champs. Fais-la tomber en arrière de la récourse.
Après deux prises, tu coupes ton swing.
Oui, c'est
tu
ça.
Tu coupes ton swing.
Ça, je te dis,
swing.
Fais-la tomber dans les trous.
Ben oui. Fais bouger la défensive adverse. Puis des trous, il y en a, là.
Ah oui, il y en a.
Il y en a des trous. Remarque, quand ils font leur défensive spéciale, le gars en arrière du deuxième but, là, il y a un trou 3-2 dans la récourse.
Ça, j'aime pas ça.
Non, ben oui, mais c'est rendu comme ça, la stratégie. Bon, au soccer, il y a une surprise aujourd'hui. La Slovaquie qui a battu la Belgique à l'Euro 2024.
Oui, victoire de 1-0 de la Slovaquie. Évidemment, on est en premier match là, de groupe. Un but qui a été marqué quand même assez tôt par la Slovaquie, par Ivan Schranz. Non, c'est ça, c'est un, exactement un but qui a été marqué lors de la première mi-temps. Alors, victoire de 1 à 0. Même si les Belges ont eu 57% de possession du ballon, finalement, ben, c'est la Slovaquie qui l'a emporté. Donc, un but à la 7e minute. Dans les autres matchs, la Roumanie l'a emporté sur l'Ukraine 3-0. Et actuellement, c'est 1-0 pour la France contre l'Autriche. Le but qui vient tout juste de se faire, il n'y a pas si longtemps, mais on est à la 40e minute, puis le but était marqué à la 38e. Donc, Max Weber du côté des Français là, qui a marqué. Donc, c'est 1-0. On est encore en première demi.
Et au tennis, si on dit que Félix Auger-Aliassime a une bonne première balle, Raonic en a toute une aussi aujourd'hui. Raonic s'est payé un record d'aus. Un aus, là, c'est ton premier service, puis l'adversaire, il touche pas.
Ouais.
C'est ça, un aus. Alors, Raonic, un record d'aus aujourd'hui, puis il a battu un top 40 mondial.
Cameron Norrie a été battu 6-7, 6-3 et 7-6.
Combien
et Raonic a réussi 47 ans.
Hey, c'est
le choses. Record
ouf.
Pour un match de 3 manches, évidemment. Le record, c'était Ivo Karlovic, qui en avait réussi 45 contre Tomáš Berdych.
OK.
Ben, actuellement, Raonic vient d'en réussir 47.
Hey, 47, c'est...
Faut le faire. Là, ça veut dire que il est en pleine possession de ses moyens.
Tout comme Bianca Andreescu.
T'as la puissance, puis t'as pas de douleur. René, ça veut dire qu'il n'y a pas de douleur. S'il est capable de passer 47 as contre le 39e joueur mondial,
ça va bien.
Ça veut dire que ça va bien.
Et Bianca Andreescu, ça va bien aussi. Là. Elle s'est rendue en finale.
Quelle belle performance.
Elle était 228e mondial. Elle va descendre dans le top 100.
Ah, ben c'est sûr qu'elle va...
C'est alentour de 100, là.
Oui, ben oui, elle va gagner des points, ça beaucoup, c'est sûr et certain. Points.
Léloni Fernandez aujourd'hui au tournoi de Birmingham. Ben là, on se prépare pour Wimbledon. Mais là, on est à Birmingham. Et elle a gagné 2 fois 600.
Oui.
Léloni Fernandez.
Ah oui, puis c'est ça, ça n'a pas été long facile, contre Sarah Toribes-Tormo. Donc 6-1 et 6-1. Intraitable en retour de service. Elle a enregistré 6 bris. Aux dépens de son adversaire en 7 occasions.
Les bris, c'est pas le fromage brie, là.
Non, c'est pas pareil,
là.
Non. Mais écoute, quelle belle performance. C'est encourageant, ça.
Carrément. Et Félix Auger-Aliassime, lui, a abandonné.
Ouais.
C'est une blessure ou quoi, là?
Ouais, bon, on dit qu'il a abandonné donc son match de premier tour du tournoi de Hall en Allemagne contre Dominik Kopfer. Il menait 6-4, 4-3 après avoir cédé le premier point à Kopfer en retour de service. Il a fait signe qu'il arrêtait le match. Donc, on va suivre son état de santé. On ne sait pas encore si la raison pourquoi il a mis fin à son tournoi, mais quelques jeux à la fin, là, il se tenait sur un... En fait, il était à genoux. Donc, on ne croit pas qu'il a subi une blessure sérieuse, mais on veut simplement pas prendre de chance pour Wimbledon, qui va débuter dans quelques jours.
Au hockey, les Oilers se sont déchaînés, carrément déchaînés. On a même sorti Bobrovsky, et ça a été une bonne décision de Paul Morris. À 5-1, ça ne donne absolument rien de le garder là.
Non.
À 5-1, tu ne pouvais plus revenir, ou presque pas. Là. Puis repos à Bobrovsky, parce que c'est lui qui avait d'être de la série encore, même s'il a donné 5 goals.
Il devra rebondir.
Les Panthers devront rebondir. Moi, je ne crois pas que les Oilers vont en gagner 3 en ligne. Là, je ne crois pas, même s'ils ont une grosse attaque et ils ont bien joué. Il y a encore des lacunes en défensive. Puis Skinner... Il a bien gaulé, le Skinner, mais il n'a pas confiance, le Skinner.
Ouais, non.
Il n'a pas confiance.
Moi non plus.
Pas confiance. Alors, ça se poursuit demain. Puis le basket, ça se poursuit ce soir à Boston. Je pense que les Celtics vont fermer ça ce soir.
Ouais, je pense oui. Ouais, je pense aussi. Donc, les Celtics qui voudront en terminer là, des Mavericks qui, un peu comme les Oilers, ont remporté une victoire. Ils ne voulaient pas se faire battre à la maison. Disons-le, là, ils ne voulaient pas se faire battre à la maison.
Ouais.
Et ils ont pris les grands moyens avec cette victoire assez convaincante. Mais là, c'est d'aller gagner à Boston. Bonne chance. Et comme les Oilers, aller gagner ça en Floride. Parce que Floride va vouloir soulever la coupe chez eux.
Et là, il nous reste une semaine pour notre concours. Le voyage à Montréal du côté du CF au stade Saputo. On fait le tirage mardi prochain, parce que lundi prochain, on est en congé, c'est Saint-Jean-Baptiste. Alors, mardi prochain, on va faire le tirage. Il y a quelqu'un qui va pouvoir aller à Montréal deux billets de soccer grâce à sportsoccer.com. Mm-hmm. Là, on donne de l'essence, on va payer l'essence, chambre d'hôtel. Notre mot de passe pour aujourd'hui, Dominique?
Défenseur. Donc, vous vous rendez au ckj.org, section concours. Vous remplissez vos coordonnées. Si vous avez la carte de membre du 92.5, c'est une chance de plus. Et le mot de passe pour aujourd'hui, défenseur. J'ai le classement de Bianca Andreescu à la suite de cette finale. 160e.
Ben, vas-tu? De 228 à 160.
Elle a monté. Rebecca Morino, 162e. Et Marina Stakucic, qui est une Canadienne également, 172.
T'as-tu les gars, Félix? Es-tu encore dans le top 20?
Écoute...
Il était 18e, Félix Auger-Aliassime.
Classement.
Parce que lundi, c'est le résultat des classements au tennis. Pendant ce temps-là, ben, je vous invite à nous appeler parce que les voyageurs qui ont divisé un double à Trois-Rivières samedi, ben là, ils vont accueillir les Ducs de Longueuil. 17e. Il a gagné une place. Alors, on a deux paires de billets, Dominique, à attribuer pour les voyageurs contre les Ducs de Longueuil. Samedi, dans un petit moment. Habituellement, il nous parle le mardi. Mais là, on a déplacé dans l'horaire à cause des congés. Claude Lucier, dans un moment.
Arrêt de jeu. Oh! Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Avec la loterie Grande Vie, j'ai gagné 1 000 par jour à vie.
Puis moi, j'ai gagné un lot boni de 25 000 par année à vie.
Fait qu'hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
Ben moi, j'ai dormi à la Belle Étoile.
Là, je me magasine un chalet dans les Bois-Francs.
Puis moi, je me pose un nouveau plancher de Bois-Francs.
Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski.
Bon, moi, faut que j'y aille. Je m'en vais promener mon nouveau Husky. Grande Vie. 3 lots boni de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 13 et 17 juin. Manquez pas ça. 18 ans et plus.
Je sais pas si tu vas me crire, mais on dit entre les branches que le plus grand inventaire de pièces de voiture se trouve chez Pièces d'Auto-Choc. Pièces d'Auto-Choc vous le confirme. Peu importe votre besoin, on a la pièce qu'il vous faut. Roues, mag, alternateur, transmission, phare, batterie, carrosserie. On a tout ça et même plus encore dans le neuf et l'usagé. Gardez votre voiture longtemps grâce à Pièces d'Auto-Choc. Chemin de l'Église, La Terrière, 545-0505.
Les lundis à 8h30 à l'émission Réveillez-vous, on parle avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Comment bien consommer? Comment éviter les fraudes? Quels sont les meilleurs produits sur le marché? Plein de sujets reliés à la consommation à ne pas manquer avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Les lundis 8h30 à Réveillez-vous au 92.5, ma radio d'ici.
Une vraie belle nouvelle pour nos aînés. La fabuleuse tournée pour les aînés de l'Abbé revient en force. Mercredi le 19 juin et jeudi le 20 juin. Nous visiterons les OMH et RPA de l'Abbé avec une plateforme pour vous amuser. Mercredi, c'est avec André Deschênes. Et jeudi, Mario Vézina. Ils chanteront pour vous. Ewick sera présent avec le 92.5 FM pour couvrir l'événement. Sylvie Ouellette de Viactive vous préparera à la danse avec des exercices. Un merci tout spécial à SOS Remorquage pour leur indispensable collaboration et merci à tous nos partenaires. Des bénévoles de la fabuleuse histoire d'un royaume seront présents. La fabuleuse tournée pour les aînés de l'Abbé, les 19 et 20 juin, on s'amuse!
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Claude Lucier est avec nous pour nous parler de hockey, de la finale de la Coupe Stanley. Claude, bonjour!
Bonjour, messieurs, comment ça va?
Ça va bien. Très bien. Est-ce que demain, les Oilers d'Edmonton vont réussir à continuer le suspense ou bien ça se termine demain soir à Sunrise?
La logique voudrait que les Panthers gagnent demain. Mais je pense sérieusement qu'il y aura un sixième match à Edmonton.
Ah oui? Ouais. Aller gagner en Floride demain, Bobrovsky va être meilleur, là.
Moi, j'étais sûr que les Panthers avaient fait exprès.
Ben, sais-tu quoi? Paul Maurice ne dira jamais, mais il a fait deux choses lors du dernier match, lors de la volée qu'ont mangé 8-1. Les joueurs se sont dit, on donne tout ce qu'on a donné, mais le pire scénario qui va arriver, on va avoir un cinquième match à maison.
Ouais, vu comme ça.
Maurice a retiré son gardien de but, Bobrovsky.
C'est fini.
Ça envoyait un message à ses joueurs que, regarde, on va faire notre temps, mais ça.
Mais tôt, quand il a sorti Bobrovsky, c'était 5-1. Les dés étaient pipés, là. C'était fini, là.
Il y avait une prise de vue. Lorsque Bobrovsky s'est amené vers le banc des joueurs, la presque totalité de ses coéquipiers avait la tête basse. Fait que. Puis d'un autre côté, il fallait à un moment donné que ça explose là, l'offensive des Oilers. Mais et je pense que ce qu'ils ont réalisé lors de cette victoire-là, c'est de reprendre confiance en leur jeu de passe et surtout lors des avantages numériques qui seront vraiment importants et vraiment décisifs demain.
Je suis certain qu'il y a des partisans des Oilers d'Edmonton samedi soir qui devaient se dire « Gardez-vous-en pour la prochaine game. »
C'est
humain de dire ça, là, à 8 à 6 à 1, 7 à 1, 8 à 1. Gardez-vous-en quelques-uns pour la prochaine game.
Ben, moi... C'est comme lorsque tu perds d'insérer un match, exemple, 10 à 2, le coach va dire « Perdre 10 à 2 ou perdre 2 à 1, on a perdu. » Là-dessus, moi, j'accroche pas tellement. Mais je suis convaincu qu'on va avoir un excellent match demain. Et il va falloir que ça va être l'équipe qui va être la plus disciplinée qui va l'emporter.
Yeah, j'aime ça, l'équipe la plus disciplinée. Il faut éviter faut éviter le mal punissant tout le temps.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu encore... Ça joue du bâton dans le dos, dans les modèles. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des joueurs qui vont l'avoir pour l'été.
Mais quand tu te rends jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, là, tu sors de là amoché.
Ah ben c'est sûr.
Peu importe les années, peu importe les équipes, les joueurs... Écoute, ça joue dur. Tu sais, là, cette année, c'est les Oilers puis les Panthers. Mais les autres années, c'est la même chose. Quand t'arrives en finale, les gars veulent gagner. Ça joue dur, ça joue cochon. Il n'y a pas de lendemain, puis c'est de même, ça marche.
Écoute, on le sait, c'est le trophée le plus difficile à gagner. Il faut que tu gagnes 16 parties.
Ouais. C'est de la peau.
Alors, c'est incroyable. Bref, c'est une série, moi, qui, à date, me plaît beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas été scotché après devant ma TV pour regarder un match au complet. D'habitude, je regarde deux, trois minutes, puis je vais voir ce qui se passe ailleurs sur la planète, puis je reviens. Mais là, je suis pas capable de décrocher.
Tu t'es rendu à 8 à 1 samedi, moi j'ai décroché à 6.
Non, j'ai étoffé jusqu'à la fin, parce que je vais voir l'expression sur les visages des joueurs, qui en dit des fois bien, bien long, parce qu'ils se doutent pas, que la caméra peut être sur eux autres.
Parce que là, faut pas oublier de l'autre. Il faut que les Oilers en gagnent 2. Oui. Là-bas en Floride, c'est de la peau, là. Il faut qu'il y en gagne 2 en Floride, puis il faut qu'il y en gagne une autre à Edmonton. C'est toute qu'une commande, là.
Moi, si j'étais coach des Oilers, la première chose à mes joueurs, puis tous les coachs qui nous écoutent, tous ceux qui coachent du hockey, que ce soit, peu importe la catégorie, du pee-wee, du bantam, du major, du junior, c'est que faut prendre ça présence par présence,
une à la fois, c'est ça.
Et n'oubliez pas la pression demain soir et sur les épaules des Panthers. Parce qu'eux autres, ils ne veulent pas retourner à Edmonton.
Non, non. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr.
Alors que les Oilers, eux autres, le pire scénario qui va arriver, ils vont prendre l'avion à 11h30, minuit, puis ils vont
sont en vacances.
En Alberta.
Ouais. Donc, mais c'est une grosse. Tu sais, 3-0, c'est une grosse commande.
C'est une grosse
3-1, ça demande encore une grosse commande. Tu sais, il faut qu'ils gagnent 2 à Floride. Il faut qu'ils retournent à Edmonton.
Mais, c'est... Michel, oui. Puis, donc, vous connaissez le sport autant que moi. C'est que si les Oilers gagnent demain,
Là, ça change la game.
C'est évident qu'il y a un sixième match à Edmonton et les Oilers vont tout donner.
Parce que, Claude, entre nous autres, là, même si on a perdu 8 à 1, la pression n'est pas du côté des Panthers. La pression est encore du côté des Oilers. Les autres, ils ont plus de jeu, là. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Les Panthers, ils ont encore beaucoup de marge de manœuvre. Tu vas me dire, il ne faut pas que ça soit là-dessus, là, mais quand même.
Mais moi, Michel, je suis plus ou moins d'accord avec toi, mon ami.
Tu n'es pas obligé.
J'ai comme l'impression. Moi, je suis convaincu que la pression est sur les épaules des Panthers.
C'est sûr qu'il y en a une. Ils n'ont pas le choix de gagner chez eux.
Il y en a des deux côtés. Mais les gars, les Oilers, là.
Si les Oilers de Edmonton gagnent demain.
Oui, mais il faut qu'ils gagnent, Claude. Ils n'ont pas de marge d'erreur, les Oilers.
Mais c'est peut-être que tu as réveillé le monstre à deux têtes.
Oui, mais Michel, au moment où on se parle, là, c'est 0-0.
C'est ça.
0-0 pour la prochaine game.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est 3-1, dingue.
Mais Michel, le sport, des fois, nous réserve des méchantes surprises.
Ouais. Samedi, ça n'était une. 8-1, là, c'est une surprise.
Une game, mais là, c'est pas arrivé souvent des comebacks. La dernière fois, c'est en 42?
En finale, c'est arrivé une fois.
D'après toi, Michel, puis toi, il serait temps.
Oui, ben oui.
Ouais.
Non, mais blague à part, au point où on est rendu, prends-toi en dessous, lance ça dans les airs, pile ou face. Puis tu risques d'avoir autant raison que n'importe qui.
Ce que je dis à Dominique tantôt, là, Skinner, Stuart Skinner, j'en ai pas confiance.
Non, Michel, Michel. Je vais être honnête, moi non plus.
Toi non plus, tu n'as pas confiance. Hein.
Tu sais, mais faut pas dire, je ne veux pas le dire trop. Parce que...
Ouais, parce que moi, l'histoire du scanner, là, il n'est pas mauvais, mais il n'est juste pas mauvais. Ben, tandis que Bobrovsky peut gagner la prochaine game seul.
Oh, ben écoute, on l'a vu les deux premiers matchs. Il ressemblait à Dominique à sec dans ses belles années. Et sur le dos, sur le ventre, pour, avec le masque, il n'y a rien qui rentrait.
Puis là, on dit que ça joue cochon, mais on va vous dire quelque chose, les boys, là. Si les Oilers d'Edmonton, en troisième période demain, mènent, là, ça va jouer de là. Celle-là, ça va jouer cochon. Là, ça va jouer cochon.
D'après moi, ils n'ont jamais vu une bataille générale.
Non, ben, c'est peut-être pas bagarre générale, parce que c'est plus des coups salauds que de la bagarre, là.
Non, non, c'est sûr.
Mais ça va jouer de la... Parce que là, si jamais les Oilers demain sont en position de gagner, là, c'est là que les Panthers devront réagir. Là, ils vont dire, wow, la série est en train de virer de bord, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça va jouer rough, là.
Mais surtout, quand t'as un gars comme Ketchup...
Ketchup, ouais.
Alors, Ketchup, oui. Ben, lui, il aime ça allumer le feu. Puis, il gêne pas de frapper les gars au visage avec ses gants. Mais j'ai hâte de le voir contre un métamorphe des Oilers qui est capable de le mettre au pas. Mais... Et ça serait surprenant que ça soit aussi robuste, sauf à la troisième période, si une ou deux.
Oui, c'est ça, beaucoup de buts d'avance. Ouais. Hey, Claude, on a annoncé et on a appris en fin de semaine que Guy Boucher n'était pas de retour du côté des Maple Leafs de Toronto. Selon toi, c'est Craig Berube qui ne le veut pas, c'est quoi?
Oui, définitivement.
C'est ça, hein?
Puis, c'est parce que quand Berube est arrivé, puis il a tout de suite nommé Lane Lambert comme son bras droit.
Ah, OK.
Fait que, puis Boucher, lui, quand il a été interviewé par la haute direction des Maple Leafs, il a clairement indiqué que lui, il voulait être entraîneur-chef. Fait que, il s'est fait dire, on sait pas comment, mais on va se passer de tout.
Y a-t-il de la place pour Guy Boucher ailleurs?
Moi, je pense que oui, parce que c'est un
excellent... Comme coach-chef.
Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est un excellent technicien qui connaît la game d'une façon incroyable. Et c'est un gars qui s'est analysé les segments d'un match. Et moi, je pense qu'il pourrait encore se trouver un boulot dans la Ligue nationale, que ce soit comme entraîneur adjoint ou entraîneur-chef.
Et puisqu'on parle des instructeurs, il y en a un qui est dans la finale de la Coupe Stanley, un entraîneur adjoint, on n'en parle pas souvent. Puis des fois, on a de la misère à le reconnaître avec sa nouvelle coiffure. Puis ben, en fait, il n'a plus de coiffure, il n'a plus de cheveux. Mais sa moustache, sa barbe, c'est Lefebvre, là. Sylvain, oui. Hein? Sylvain Lefebvre. Oui. Tu sais, on l'oublie. Lui, il a joué au Canadien. Il a joué à Québec, lui, Sylvain Lefebvre.
Oui, il a joué avec les Nordiques.
Il a joué avec les Nordiques aussi, Sylvain Lefebvre. On l'oublie, là, mais il est rendu en finale de la Coupe Stanley comme entraîneur adjoint. Puis on sent qu'il donne beaucoup de conseils aux gars, là.
Oui. Juste passer quelques secondes sur nos fameux Blue Jays, l'équipe d'une nation. Ce que j'ai aimé...
Oh, Claude, attends un petit peu. Oui. Il y a un joueur des Blue Jays qui vient de se faire striker encore.
Comment ça?
Ben, il y a 492 strikeouts depuis le début de l'année. Il y en a tout le temps un qui se fait striker. Il y en a un qui vient de se faire striker encore, là.
Ben, ce que je veux vous dire, que vendredi soir, après la défaite contre Cleveland, Gausman, le lanceur étoile des Blue Jays, a passé un message sérieux à ses coéquipiers. Il dit là, il commencerait à être temps que ceux qui sont payés pour frapper frappent des balles, puis ils donnent des coups sûrs, il vaut mieux nous supporter. On a beau vouloir lancer 5-6 manches, puis tenir les adversaires à très peu de points, mais à un moment donné, il va falloir que ça se mette à frapper la balle.
Oui.
Je pense que le message a été entendu parce que en fin de semaine, ils ont gagné, ils ont marqué 5 points samedi, et 7 points hier contre les Indians. Donc, 12 points en deux matchs. Espérons que ça va continuer de la même sorte avec la série qui commence ce soir entre les Red Sox de Boston qui ont défait hier, qui ont donné une volée aux Yankees en passant.
Ouais, ma peur des Jays, c'est qu'ils sont pas constants. Là, ça a été bon, deux games. Là. Sont-tu capable de coller ça pour 7-8-9 games?
Michel Fermenteur, je te dirais oui.
Ouais,
mais il y a une chose qui est sûre.
Ouais.
La grande faiblesse des Jays, c'est, hier, ils ont failli se faire jouer un tour, là. C'est le relève qui n'est pas fiable.
Ouais.
Hier, ils venaient 7-2, et puis les Indians ont monté ça à 7-7, et ça a tout pris pour sauver les meubles. Mais Schneider, le gérant des Jays, parce qu'il y a des joueurs comme Beau Bichette qui étaient sur le banc hier. Jason Turner ne jouait pas. Puis dans le cas de Beau Bichette, je pense qu'il va falloir qu'il commence à être plus sélectif quand il va se présenter au
bâton. Ça en a un autre qui fait juste swinguer, là. Il touche plus à balle. Springer touche plus à balle. Et ça, Turner, ça se fait striker à tour de bras. Guerrero, il frappe un coup sur temps en temps, mais il se fait striker. Lui, il se fait striker souvent aussi, là.
Mais ce que j'ai aimé voir hier des jeunes comme Ernie Clement et Edison Barger qui ont frappé la balle solidement et qui ils ont joué vraiment du beau baseball. Et je pense que là, il va falloir que Schneider envoie sur le terrain les joueurs qui produisent.
Que, Claude, ça fait longtemps que tu t'analyses le baseball et que tu donnes des scores de baseball, Dominique aussi. Habituellement, quand on donne des scores de baseball, on dit ben il y a eu 2-3 circuits, il y a eu 10, 12, 13, 14 coups sûrs, où le lanceur a bien lancé, il n'a pas donné de beaucoup de coups sûrs, puis il y a des strikeouts. Mais hier, il y a une équipe de baseball qui a gagné grâce à 10 buts volés. Il y a un joueur qui a 4 buts volés, juste lui tout seul, là. 10 buts volés. Hey, ça, là, c'est du baseball.
C'est qui, c'est Arsène Lupin du baseball?
T'as peu, moi, t'as le dire, là. Je m'ai checké dans mes nouvelles de sports. Je les ai pas proches, là.
C'est dans quel match, tu te souviens-tu?
Murray
Wills?
Non, pas Murray
Wills.
On va vous le trouver. Baseball. Ça,
John Bocabella.
Je vais vous le trouver, je l'ai ici. C'est 10 buts, c'est ici.
Laval-Leclerc.
Attends un peu, là.
Il sort des genoux.
OK, c'est Boston contre les Yankees.
Ah oui?
Ouais, David Hamilton. Hamilton, il y a 9... Il y a 4 buts volés, puis l'équipe, les Red Sox, 9 buts volés. C'est-tu le catcher qui n'a pas de bras? Ben, pas son trop vite.
Moi, je pense que c'est le catcher qui n'a pas de bras.
C'est le catcher qui n'a pas de bras.
Parce que le 7-2, tu m'en apprends
une
bonne.
Ah non, vrai, là. Boston 9, Yankees 3. David Hamilton, 4 buts volés, puis les Red Sox au total... 9 buts volés.
Eh oui.
Félicitations à son beau programme.
J'ai annoncé ça le matin dans les sports.
T'as-tu bien des réactions?
Ben, Dominique, il a dit que ça court.
Les Alouettes, en passant, là,
oui.
J'ai regardé les deux premiers matchs qu'ils ont joué à Winnipeg, à Edmonton. Honnêtement, ceux qui me disent, qui vont dire que le football canadien est plate à regarder, je comprends.
C'était bon.
C'est un essai de moins que de la NFL. Mais je trouve que les gars jouent du beau football. Et c'est honnêtement, avec Desjardins, comment il s'appelle l'analyste?
Pelladeau.
L'analyste Vercheval.
Vercheval.
Okay. Lui là, c'est un top.
Lui, ben oui, il est bon. Ben
il commence
oui.
Intéressant. Parce, et à date, ils ont 2 victoires. Il y a encore des choses à améliorer. Mais honnêtement, c'est un début de saison encourageant pour les Alouettes qui ont repris là où ils avaient laissé l'automne dernier.
Toi, à cause tu nous parles pas une franchise de la Ligue canadienne à Québec. Tabarouette de la rivalité à Québec-Montréal.
Toi, n'importe quel sport, les dames, une franchise...
Non, demain matin, il faut faire renaître la rivalité Montréal-Québec. Il n'y en a plus.
Non, tu as bien raison.
Tu sais, puis au football, ce serait quelque chose, là.
Oui, mais tu as le Rouge et Or aussi, puis qui amène large.
Oui, bien, c'est eux autres qui contrôlent le football à Québec.
C'est parce que, un, ça prendrait un stade, un vrai stade de football.
Ben, j'ai le choix. Un tunnel, un tramway, ben, un stade de football.
J'ai le choix, ça, Québec. Ça prendrait quand même un quatrième lien.
Oh,
oh.
Mais je veux dire de quoi, Michel? Québec, c'est une ville de sport professionnel mineur. C'est pas méchant, ce que je dis.
Mais non.
C'est pas péjoratif.
Et tant qu'il n'y aura pas de poste de radio qui vont promoter, comme disait Régis Lévesque, il n'y a même pas un poste de radio qui promotionne le baseball.
Non, mais le promoter le combat, mais ça va les Hilton.
Oui, les Hilton, certains, mais tu sais, il n'y a pas de sport à Québec. Il y avait un rapport quand ils ont gagné la Coupe Memorial.
Non, mais les rapports, là, ils vont se débrouiller l'année prochaine.
Ouais.
Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire des séries à tout le moins.
En tout cas, au moins, ils s'en viennent dans la Ligue nord-américaine. On se quitte là-dessus, Dominique et Claude Lucien. Puis on se reparle mardi prochain après Saint-Jean-Baptiste.
Salut.
Au revoir.
Portez-vous bien.
Dans un instant, un gars qui a marqué l'histoire des Saguenay-Chicoutimi, Gilbert Paiement.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Amateurs de soccer, vous aimeriez ça assister à un match du CF de Montréal au stade Saputo? C'est possible! EspaceSoccer.com, en collaboration avec le 92.5 Ma Radio d'ici, vous offre la chance de gagner deux billets pour le match du samedi 20 juillet contre Toronto FC, alors que deux billets vous seront offerts, chambre d'hôtel, l'essence et deux chandails du CF de Montréal. Voici comment faire pour participer.
Écoutez Dans le vestiaire à tous les jours entre 15h30 et 16h30 pour prendre en note le mot de passe et rendez-vous au ckaj.org section concours pour être finaliste. De plus, durant l'émission, nous prendrons un finaliste par téléphone au 412-92-50. Et si vous avez votre carte de membre CKAJ, vous doublez vos chances de gagner.
Tirage dans le vestiaire le 25 juin. Participez en grand nombre et bonne chance.
Éveillez-vous. Ne manquez pas tous les jours de semaine l'émission du matin la plus près de vous. Réveillez-vous avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Entrevues, chroniques, histoires, politiques, tout ce qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel.
Réveillez-vous dès 6h tous les matins de semaine au 92.5, ma radio d'ici.
Les dimanches soirs, dès 18h, à CKJ, romance. Romance.
Let it be me. Prends bien soin d'elle.
De 21h à minuit, les années ritournelles.
Noyés de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
C'est bientôt le retour du plus gros spectacle aérien militaire au Canada. Le spectacle aérien international de Bagotville célèbre en grand le 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne les 22 et 23 juin prochains. Tout le week-end, assistez gratuitement aux démonstrations aériennes à couper le souffle. Visitez des dizaines d'aéronefs et découvrez les installations militaires de la base. Le SAIB, la plus importante activité familiale au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été. Détails au saibagotville.com.
Dès le 22 juin, c'est le début de la nouvelle saison au parc milieu de la colline secteur Chicoutimi-Nord. Ouvert tout l'été, tous les jours de 9h30 à 16h. Consultez notre site web pour les détails de notre programmation avec une foule d'activités. Le parc milieu de la colline, la destination préférée des enfants au Saguenay.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Chez Kia Rolls d'Auto, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada avec le Kia Seltos 2024. Embarquez dans un Kia Seltos 2024 et profitez d'offres de location et financement dès aujourd'hui. Kia Rolls d'Auto, du mouvement vient l'inspiration.
Ce n'est pas une arnaque. Le 92.5 a bel et bien une nouvelle page Facebook. Les fans de CKJ 92.5. Meta ayant bloqué tout le contenu d'informations canadiens de ces plateformes, nous avons décidé de créer une seconde page pour rester en contact avec vous, nos auditeurs. Venez aimer notre nouvelle page Facebook, les fans de CKJ 92.5, pour connaître les nouveautés à nos émissions, participer au bingo en direct ou encore contacter nos animateurs. Rendez-vous sur Facebook, la page Les fans de CKJ
92.5. Notre 114e ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi à répondre à nos questions le lundi est Gilbert Paiement. Yves Bolduc est avec nous pour nous donner un petit bout de son CV, puis après ça, on va le questionner. Yves Bolduc, bonjour. Yves Bolduc, bonjour.
Es-tu là?
Ah. Juste faire un lien. Je veux juste faire un lien avec ce que vous avez parlé avec Claude Lucie. N'oubliez pas, les gars, que dans une série comme ça, peu importe les émotions, les forces, d'abord, oui, l'équipe de la Floride semble un mieux équilibrée que les Oilers pour l'instant, là. Mais le quatrième match, là, c'est toujours le match le plus difficile à gagner. Et là, c'est du côté de la Floride de finir le travail. Eux, ils peuvent penser qu'ils ont plusieurs autres chances, là. Mais les Oilers, eux, c'est do or die. Ils n'ont pas le choix. Donc, eux, c'est certain que ce soir, ils vont être à la pédale dans le plancher.
C'est demain.
Demain. Et là, ça va être aux Panthers là, de s'ajuster parce que, oui, tu as raison, Michel, perdre 10-1 ou 2-1, c'est une défaite quand même en série éliminatoire. Il n'y a pas de but pour but contre qui compte, mais ils en ont mangé toute une gamme.
Oh, oui. Gilbert, c'est rare qu'on voit ça en finale.
Gilbert Paiement, dis-nous en donc un petit peu plus sur son compte.
Ben, Gilbert Paiment, c'est un natif de l'art des Ormeaux qui s'est amené avec les Saguenayens lors de la séance de sélection de 1981. Choix de quatrième ronde, le 29e au total des Saguenayens. Et lui, il a marqué l'histoire des Saguenayens, non seulement par son jeu sur la glace, mais surtout parce qu'il est le premier joueur de l'histoire des Saguenayens à avoir remporté le trophée Marcel Robert, remis aux joueurs étudiants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l'époque. Et ça, c'est tout un accomplissement parce que, rappelez-vous, là, ben, peut-être pas Dominique, mais Michel, en 83-84, les études, c'était pas une grosse chose dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis à Chicoutimi, ben, c'était loin, c'était difficile de convaincre les joueurs de venir pour les études, pour le hockey. Et lui, il n'a pas eu peur de venir, puis il a été fortement récompensé par ses accomplissements. D'ailleurs, il a connu une excellente carrière au niveau de l'éducation. Il a même été le directeur de mon école d'enfance, pas à l'époque où j'y étais, mais à l'école Félix-Antoine Savard à Chicoutimi. On va l'accueillir immédiatement pour discuter avec lui. Gilbert Paiement est en ligne. Bon après-midi, Gilbert.
Merci, toi aussi, Yves. Salut, alors, Michel.
Salut, Gilbert. À part avoir été remarqué par les coachs de hockey, t'as été, d'après ce que j'entends, là, t'as été remarqué par les professeurs à l'école. T'étais si bon que ça à l'école, même au primaire?
Malheureusement, je n'étais pas très, très, très bon au primaire et au secondaire.
Ah non, c'est venu par après!
Et je dois rectifier un petit peu les faits que Yves a mentionnés. Tout d'abord, oui, effectivement, j'ai été repêché en 81, mais je me suis pas présenté au camp d'entraînement en 81, justement à cause des études. Faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait le collégial 3A, dont le président était M. Serge Chavard, du Canadien, qui voulait démarrer une ligue où les joueurs pouvaient étudier. Donc, il y avait une petite confrontation entre le collégial 3A et la Ligue junior majeure du Québec à l'époque, ce qui a fait, un peu plus tard, forcer la Ligue junior majeure du Québec à prioriser un petit peu plus les études, sachant que les joueurs. Donc, je ne me suis pas présenté, comme bien des joueurs de la Saint-Louis ne se présentent encore aujourd'hui, ne se présentent pas. Pour les mêmes raisons, c'est les études, mais pour les États-Unis, parce que c'est anglophone. Moi, je venais de là, mais je ne me suis pas présenté, pas à cause des États-Unis, mais à cause.
Mais avant le hockey junior majeur, est-ce que Gilbert Paiement est un bon joueur de hockey, là, au hockey mineur? Raconte-nous ça, hein?
Ben moi, effectivement, j'ai commencé mon hockey tout jeune à 6 ans. Toujours été un des capitaines ou assistants capitaines des équipes. Toujours performé dans le calibre 2A jusqu'au midget 3A, parce que le midget 3A venait de commencer quelques années là, avant mon arrivée. Fait qu'effectivement, l'avantage que j'ai fait à cette époque-là, c'était peut-être ma grandeur et ma grosseur. Quoique aujourd'hui, il y en a des pas mal plus grands. Pas beaucoup de plus gros, mais pas mal plus grands. Donc, j'avais beaucoup cet avantage-là à ce niveau-là, transformé en défenseur, rendu au bantam. C'était à l'attaque avant.
Justement, tu nous parlais de la période où tu t'es pas présenté avec les Saguenay. Tu t'es aligné avec quelle équipe dans la Ligue collégiale 3?
Le Collège Saint-Laurent.
Avec les Patriotes du Collège Saint-Laurent. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le Collège Saint-Laurent pour finalement te joindre aux Saguenay en 82-83?
Ben, un peu gênant de dire la raison, la première raison. La première session, c'est parce qu'au collégial, ce qu'il faut savoir, c'est que pour demeurer dans l'équipe toute l'année, il faut réussir au moins la moitié de nos cours au cégep. Ce que j'avais réussi, mais à peine, à ma première session. Dès Noël de cette année-là, J'ai toujours été en contact avec Michel Morin. À l'époque, c'était Michel Morin, l'instructeur. Toujours resté en contact avec. Et je devais transférer même au FIGHT. Il y avait une place pour moi au FIGHT. Mais en tout cas, pour des raisons, je dirais, plus... pas d'études à ce moment-là, mais de gêne ou je ne sais pas. Là, il faut se dire que Chicoutimi était l'équipe la plus loin. Et mon frère avait quand même joué pour le Junior de Montréal pendant 4 ans. Donc, connaissait un petit peu les distances. C'est gênant de dire ça au moment où on se parle, parce que là, ils vont jusqu'à Cap-Breton. Mais à l'époque, Chicoutimi était le plus loin. Donc, j'ai hésité, mais je me suis présenté au camp d'entraînement l'année suivante avec M. Morin.
Tu fais partie du groupe des anciens Saguenayens avec qui on s'entretient chaque semaine. Tu es le 114e depuis janvier 2022. Parle-nous d'une personne qui a exercé une grande influence au niveau de ta carrière junior.
Bon, c'est sûr qu'il y en a eu plus qu'un, mais comme je viens de mentionner, si ça n'avait pas été de l'acharnement de Michel Morin, l'instructeur, je serais probablement jamais venu avec les Saguenayens. Fait que c'est sûr que lui, mais par contre, il n'est pas resté très, très longtemps. Il était congédié après quelques matchs seulement en début de saison. Fait que c'est sûr que c'est lui là qui m'a amené ici. Mais après ça, j'ai rencontré Miville Leclerc, qui était le vice-président hockey à ce moment-là. J'avais une condition pour venir ici à Chicoutimi pour me motiver. Parce que comme je vous ai dit, malgré mes études, j'étais pas très, très... motivé à l'école, donc j'avais pas réussi beaucoup de cours à ma première session et je prenais beaucoup d'importance à la réussite de l'école parce que c'est encore ça aujourd'hui, on le sait tous, là, il y a moins d'1% des joueurs du junior majeur qui gagnent leur vie au hockey, pas qu'ils sont repêchés, mais qui gagnent leur vie avec le hockey. J'étais déjà conscient de ça. Donc j'avais demandé à Miville Leclerc pour venir ici d'être payé 50$ par cours d'école du cégep réussi. Oh, donc à chaque cours que je réussissais, il me donnait 50$.
Oh boy. Mais tu dis que Michel Morin avait beaucoup, il a eu beaucoup d'acharnement pour t'amener à Chicoutimi. C'était quoi ses arguments pour te convaincre?
Ben, à l'époque, c'est au niveau de la défensive, bien sûr, c'est un joueur de défense, donc il avait besoin de joueurs de défense, dont ma stature aussi. Et il soulignait ça, puis il me suivait au niveau, mais il m'avait suivi toute l'année Midget 3. Midget 3, il faut se rappeler. Nous, je jouais pour le Lac-Saint-Louis. On a gagné, à l'époque, ça s'appelait la Coupe Air Canada. Dans cette équipe-là, Midget 3, il y a quand même 6 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Donc, pour une équipe Midget, là, 6 joueurs qui vont jouer dans la même équipe dans la Ligue nationale, c'est assez particulier. Dont un qui avait été repêché en même temps que moi, qui n'est jamais venu, qui était Jeff Hamilton. Lui avait été repêché, si je ne me trompe pas, en première ronde, là, qui était le premier scoreur de la Ligue G3, mais lui, il n'est jamais venu au Saguenay. Fait qu'il y avait beaucoup d'acharnement, il m'avait tout l'été, finalement, il savait que je ne l'ai pas. Le dépisteur, que je ne me souviens pas de son nom, dépisteur en chef, venait me voir jouer collégial, était venu me parler. Ils sont venus à partie d'étoiles, ils sont venus me rencontrer à partie d'étoiles du collégial 3A. Il y avait beaucoup d'acharnement à ce moment-là. Pour les raisons exactes, je ne le sais pas. Je pense qu'il manquait de joueurs à ce moment-là. Au niveau défensif, là, je me souviens pas de cette année-là. C'était quand même la dernière année de Luc Dufour et de Normand Léveillé avec les Saguenayens. Donc, je sais pas qui était à la défense à ce moment-là. Mais c'était vraiment ça. C'est sûr que l'autre personne qui m'a beaucoup influencé, bien sûr, c'est Népé. Là. Je pense que Népé, au niveau de tous les joueurs des Saguenayens, ouais. Peut-être moins aujourd'hui, parce qu'il est plus dans le bureau que sur le plancher. Mais Nep, avec sa façon de nous accueillir puis de s'occuper des joueurs qui arrivent de loin, c'est un bon souvenir.
Je voudrais que tu nous parles un petit peu de Normand Léveillé. Tu sais, on a entendu son histoire avec les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Junior, on sait qu'il était bon, mais toi, tu as joué, tu l'as côtoyé. Était-il vraiment si bon que ça, Normand Léveillé?
Il était très, très bon. Ah, ouais. Un patin extraordinaire, un fabricant de jeu, capable de compter des buts. C'était un excellent joueur. C'est sûr que ça aurait été un joueur vedette là, avec quelques années de plus là, dans le corps au niveau de la Ligue nationale. Là. Je suis persuadé qu'il aurait fait une grande carrière et qu'on l'aurait connu pour les raisons différentes qu'on le connaît aujourd'hui. Puis en plus, Normand était dans la même pension que moi quand je suis arrivé ici. Ben, l'année avant, lui, il a fait la Ligue nationale. Là. Puis là, moi, l'année suivante, j'étais dans sa pension, qui était dans la famille de Luc Dufour. Je restais chez les parents de Luc Dufour.
Ah, Luc Dufour.
Juste pour te rappeler quelques souvenirs, Gilbert, là, j'ai devant moi la Ligue Bat des Saguenayens lors de ta dernière saison, 83-84. Là, il y a eu passablement de mouvements avec les Saguenayens cette année-là. René Lécuyer, André Carbonneau, Christian Marcotte, des joueurs qu'on connaît un peu. Daniel Krasoski, Armel Parisi, Christian Duperron, Jean-Marc Richard qui était à ses débuts, Benoît Richard, Claude Lajoie, Sylvain Hudon, Pierre Lavoie, Carole Gravel, Ray Quigley et Marc Bergevin.
Ah ouais, il y a du talent, hein?
Les gros noms.
Donc, il y avait, oui, effectivement, un manque de profondeur à la défensive. Gilbert, quel était ton surnom avec les Sags et qui étaient tes meilleurs amis?
À ma connaissance, j'ai jamais eu vraiment de surnom avec les Saguenayens. En tout cas, à ma connaissance, je me tenais beaucoup avec les joueurs un peu plus sérieux à l'école. Là. Paul Gagné, André Villeneuve, Christian Duperron, Sylvain Morissette qui était soigneur avec l'INEP, là. C'était des personnes avec qui je me tenais plus. C'est sûr que quand on revenait de nos voyages en autobus, là, on se motivait ensemble là, pour faire au moins un petit bout du retour du voyage à étudier puis à faire nos travaux dans l'autobus. Fait que c'est plus avec eux autres là, que je me tenais.
Je sais que tu t'es impliqué un petit peu au niveau du hockey collégial, entre autres au cégep de Chicoutimi par la suite, mais depuis la fin de ta carrière junior, est-ce que tu as revu assez régulièrement des parties de la LHGMQ? Puis quelle différence as-tu remarqué par rapport à il y a 40 ans maintenant?
J'ai pas vu beaucoup de parties dernièrement. J'en ai vu beaucoup à la fin, là, au début, là, à la fin de la carrière. J'ai un frère quand même qui a coaché ici avec les Saguenayens puis qui a coaché un petit peu partout dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, je suivais un petit peu plus ça. Ce que je trouve de différent actuellement, c'est sûr, c'est la vitesse d'exécution, la vitesse des joueurs, la force des lancers. Ça, c'est sûr que c'est nettement supérieur. C'est sûrement à cause de la technologie là, de l'équipement, ça a sûrement aidé. Puis les joueurs sont beaucoup plus, on va dire, entraînés que nous, on pouvait l'être. C'était plus ou moins sérieux, là, l'entraînement quotidien. Par contre, j'aurais cru, avec les années, que les joueurs deviendraient de plus en plus grands et gros. Il y en a des grands, mais j'ai écouté le repêchage dernièrement, là, junior majeur, puis des joueurs en haut de tibien, il n'y en a pas beaucoup là, qui ont été repêchés, en tout cas pas dans la première ronde. Là. Beaucoup de 5 et 9, c'est sûr que c'est des jeunes qui vont grandir encore. Il n'y a pas beaucoup de gros joueurs, parce que je joue encore au hockey au Centre Georges Vézina le vendredi, puis souvent l'équipe visiteuse est dans le corridor. Je regarde les joueurs, ils ne sont pas nécessairement plus gros que nous autres on l'était à l'époque. Ça me surprend. Pour le reste, c'est sûr qu'au niveau de l'exécution, la vitesse, là, on ne serait plus là aujourd'hui.
On pourrait peut-être préciser, Gilbert, que tu es le frère à
Réal.
À Réal Paiement, qui a coaché les Saguenayens.
Effectivement.
Toi, tu n'as pas eu d'idée de coaching par après, non?
Moi, j'ai coaché, comme Yves vient de le mentionner, j'ai coaché le cégep de Chicoutimi, la collégiale 2A à l'époque, les Cougars, pendant 7 ans. Et à l'époque, Joe m'avait téléphoné pour aller adjoint avec lui. Quand je lui ai dit le salaire que je gagnais avec les Cougars, il m'a dit qu'il pouvait pas me payer ça comme adjoint. C'était pas beaucoup. Fait que j'ai compris qu'adjoint au junior majeur à l'époque, c'était pas payé beaucoup. Aujourd'hui, ils sont rendus avec 3-4 qui gagnent peut-être pas leur vie totalement. Je pense qu'ils ont peut-être besoin d'un petit peu d'aide à l'extérieur, mais beaucoup plus de salaire que moi. Là. Ils peuvent être plus autonomes, même s'ils sont 2, 3 ou 4 en arrière du banc.
Tu es un des rares, Gilbert, dans la première décennie des 50 ans des Saguenayens, qui est venu au Saguenay puis qui est demeuré au Saguenay par la suite. Tu t'es établi, tu as terminé tes études, tu as joué entre autres pour les Inuits de l'Université du Québec à Chicoutimi. La première mouture, là, pour ceux qui se rappellent, de la Ligue de hockey universitaire à l'époque. Et puis, tu as connu une brillante carrière au niveau de l'éducation. Parle-nous de ta famille que tu as bâtie au Saguenay, ta conjointe, enfant. Et parle-nous un petit peu de ton cheminement au niveau de ta carrière de l'éducation. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es toujours dans le milieu et où tu habites?
Effectivement, j'ai eu un petit peu de... de lenteur à me présenter au Saguenay, mais depuis, jamais retourné, jamais ressorti du Saguenay. J'ai effectivement épousé une Chicoutimienne qui est enseignante. J'ai eu deux enfants, un garçon et une fille. Les deux, nous sommes chanceux, les deux sont restés. Mon garçon est quand même allé 5 ans à Montréal, mais il est revenu ici. Donc, toute ma famille, mes deux petits-enfants, ils sont ici. Fait que j'ai la chance, même si j'ai pas voulu venir ici, là, j'ai la chance d'avoir et d'être resté ici et que ma grande famille soit encore ici là, à ce niveau-là. Ça, je suis vraiment chanceux à ce niveau-là. C'est sûr que au niveau de l'école, j'ai été enseignant d'abord en éducation physique quelques années, plusieurs années enseignant en anglais. Et ensuite, j'ai fait une carrière de directeur d'école là, pendant 27 ans, au primaire, au secondaire, et j'ai terminé au professionnel en mécanique. Donc, une belle carrière dans l'éducation. Et aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans, retraité, qui profite du golf et qui continue à jouer au hockey l'hiver. Je suis très, très bien ici au Saguenay. Je demeure actuellement, je suis toujours au Saguenay, mais je demeure, pour ceux qui vous connaissez très bien, le lac Kenogami. Donc, j'ai une résidence autour du lac Kenogami, avec laquelle on commence à avoir un petit peu d'eau, mais ça a pris plus de temps que d'habitude.
Dernière question, Gilbert. Quelle est la personne dont tu as gardé le meilleur souvenir de tes années avec les Saguenayens?
Bien, ça serait difficile de vous dire que c'est ma conjointe.
Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça.
Je l'ai rencontrée ici pendant mon stage junior au Cégep. Fait que je peux pas vous dire autrement que c'est ma mère. Mais je garde un excellent souvenir de ma famille de pension, là, Raymond et Gemma Dufour, avec Annie, Marc, Luc. J'ai moins connu Martine, qui est la femme de Alain Côté, soit dit en passant. Je l'ai moins connue parce qu'elle ne demeurait pas à la maison. Et bien sûr, là, je dirais Ronald Neptune, donc Népé. C'est des gens. Mais au tout début, il faut que je vous dise que c'est ma conjointe.
T'as-tu des enfants qui jouent au hockey, qui font du sport?
Non, mes deux enfants ont fait un peu de sport, mais je sais pas, j'ai jamais. Je suis pas le père là, qui voulait voir ses enfants réussir ou moi j'ai échoué. Là. Aujourd'hui, mon fils joue au hockey, au deck hockey, puis au hockey dehors. Mais à ma souvenance, je ne crois pas qu'il a déjà mis l'équipement.
Mais là, temps. Gilbert Paiement, je vais dire quelque chose. T'as pas échoué dans le sport, là. T'as joué junior majeur.
Effectivement.
Non, t'as pas échoué. Là, ça, j'aime pas ça, là, parce que moi, j'aurais aimé ça me rendre junior majeur, mais c'est pas rendu. Fait que t'as pas échoué. Quand t'es rendu dans le junior majeur, moi, je pense, là, on essaie de se rendre le plus loin qu'on peut.
Non,
moi, j'ai essayé de me rendre le plus loin que je pouvais dans le hockey. Baseball, j'ai réussi à jouer junior. Tu sais, on fait mais ce qu'on peut, là. On n'est pas tous des Guy Carbonneau et des Gilbert Delorme, là.
Non, effectivement.
Ouais. Alors, bravo. Bravo de t'être rendu junior majeur. Parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent à la Ligue nationale. Puis dans le junior majeur, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, bravo pour ta carrière,
ouais.
Gilbert.
Oui, puis j'ajouterais, Michel, bravo aussi pour le temps que tu as mis dans tes études, parce que tu nous racontes que tu avais certaines difficultés, puis finalement, ben, tu t'es bien amélioré, puisque tu as mis la main sur le trophée du joueur étudiant de la Ligue junior majeure du Québec, et tu as fait une carrière de plus de 30 ans dans l'enseignement, donc c'est vraiment tout en ton honneur.
Juste une petite anecdote. Ben, deux choses. D'abord, chez les garçons dans l'éducation, vous comprendrez que tant que c'est pas significatif pour nous, on n'y met pas beaucoup de temps, mais quand ça devient significatif, on sait qu'est-ce que ça va nous amener beaucoup plus. Je pense qu'on met plus de temps. Puis encore là, si c'est plus ce qu'on veut faire dans la vie, moi, je voulais être enseignant en éducation physique. J'ai jamais cru que je pouvais m'y rendre. Mais une fois rendu au cégep, on m'a ouvert les portes. Juste une dernière anecdote, parce que je suis pas sûr, c'est pas Michel, je pense que c'est l'histoire du trophée Marcel Robert. Moi, je demeurais à Montréal chez mes parents. Et la remise du trophée se faisait au Hilton à Montréal. Bon, c'était en après-midi, un dimanche après-midi. Le matin même, c'est une anecdote que je vais me souvenir toujours, j'ai reçu un appel d'un journaliste qui me félicitait, mais là, je ne sais pas encore, là, qui me félicitait que j'avais gagné le trophée. J'avais gagné le trophée. Marcel Robert, mais on ne le sait pas encore, là, c'est en après-midi qu'on va...
Ça va être... Il y a des journalistes qui ont des bons tuyaux, hein?
Les journalistes, mais si je ne me trompe pas, là, c'était même écrit dans le Progrès du Dimanche, mais à l'époque, n'y a pas d'Internet, il n'y avait rien. Fait qu'on ne pouvait pas vraiment voir. Et j'avais remercié le journaliste. Je ne sais pas si c'était cher. Je ne me souviens pas de quel journaliste c'était. Je l'avais remercié parce que là, il fallait donner, faire un discours. Si le gagnant gagnait, je me souviens bien, c'était 1000 $ bien sûr, le trophée. Il fallait faire un discours. Et là, moi, je me pratiquais mon discours, mais tu sais pas si tu vas le dire, le discours, ou tu vas pas le dire. Je peux vous dire qu'après, je l'ai appris par cœur, mon discours.
C'est bon. Hey, merci pour cette anecdote, Gilbert Paiement. Puis, bon été au lac Quesnot. L'eau s'en vient, là.
OK.
Merci beaucoup. Alors, qui sera notre invité dans trois? Parce que là, les deux prochaines semaines, on est en congé le lundi, Yves.
Oui, effectivement. Et puis, dans trois semaines, on va faire le lien avec notre invité d'aujourd'hui. On va recevoir quelqu'un qui est un petit peu en dehors de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais justement, Gilbert en a parlé tout à l'heure. Un gars qui a travaillé beaucoup avec les joueurs, qui était l'adjoint de Renald Neptun dans les années 80. On va recevoir Sylvain Morissette à nos micros.
Oh, merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est le basket, Dominique?
Oui, effectivement, basket, cinquième match de la finale entre les Celtics de Boston et les Mavericks de Dallas. Une victoire des Celtics leur donnerait une 18e consécration dans l'histoire.
Puis le hockey, c'est demain, en Floride. Les Panthers vont tenter de mettre le grappin sur la Coupe Stanley, c'est pas réglé, par exemple. Ils devront stopper, parce que là, l'artillerie roue des lourdes des Oilers s'est mis en marche.
Et même McDavid a battu un record. Hein?
Oui, bien sûr, un record à Gretzky pour le plus de passes.
Le plus de passes dans une série éliminatoire. Donc quand même,
et pendant ce temps-là, l'Euro 24 se poursuit et le tennis un peu partout dans le monde. Là, on est dans l'Angleterre. Dans l'Angleterre,
on se prépare pour Wimbledon.
Puis il y a l'Académie à Xavier Courchain à Chicoutimi-Nord.
Effectivement.
Bonne soirée, mesdames, messieurs.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.